Au conservatoire de Rouen, pour l'audition, j'avais appris le début de L'étranger de Camus. Je monte sur scène et là je commence et je fais Aujourd'hui, maman est morte. Et là, trou de mémoire. Et là, je cherche sans bouger. Et là, le jury me dit « Merci, monsieur ». Et je me dis « Merde, j'ai tout foiré ». Et ils m'ont rappelé après, j'ai été pris, et ils m'ont dit « Ce silence ». Ce silence, après aujourd'hui.
France Inter, le best-of, Augustin Trapenard.
Franck Dubosc.
J'entends un bruit que j'entends depuis un bon moment, parce que moi, j'ai des gens autour de moi. J'ai une sœur, j'ai une maman qui crie déjà depuis longtemps, qui me crie dans l'oreille déjà depuis longtemps et qui m'explique parfois en ayant l'impression que je ne peux pas comprendre. Donc, j'entends le même discours aujourd'hui, mais là, multiplié par un nombre de Français incroyable. Donc, j'entends des gens qui souffrent, ça c'est facile à dire, on le sait. Et je commence à entendre de la haine.
Jean-Michel Autoniel.
En tant qu'artiste visuel, le paradoxe, c'est il faut écouter, il faut entendre, pour arriver à sortir des images. C'est ça, je crois, la chose la plus dure aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver le temps pour cette écoute. Et de cette écoute va naître des images qui vont être des sortes de plaques sensibles face à la situation du monde.
Sometimes I feel
j'ai vu un homme diminuer. Il a été à l'époque à ce qu'on appelait ORMI. Alors il se demandait pourquoi. Lui qui avait commencé à travailler à 14 ans. Donc j'ai vu quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui se lève, qui a un petit cahier pour écrire tout ce qu'il fait dans la journée, tout qui il voit. Quelqu'un qui entend les autres dire ah, regarde, le feignant de Dubosc.
Sometimes I feel.
C'est terrible ça. Parce que on pense à la situation de la personne chômeur ou qui n'a pas peu d'argent, mais c'est aussi le regard des autres qui est difficile.
Hugo disait ça, les naufragés du système.
Elisabeth de Fontenay.
Je ne sais pas si c'est des misérables qui parlaient, parce que ce n'est pas des misérables que nous avons dans la rue. Ce sont des minima sociaux, ce n'est pas la même chose. Le peuple, pour moi, ça me renvoie à une citation de L'Aiglon de Rostand. Et nous, les petits, les obscurs, les sans-grades. Nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché et de dotation. C'est ça le peuple.
Kenzo.
En fait,
le vêtement, d'après moi, déjà, il faut se sentir bien lorsqu'on porte ce vêtement.
Il ne
faut pas avoir froid, cela vous protège du froid. Cela a des aspects pratiques, d'une part.
Mais,
et d'autre part, lorsque la personne porte ce vêtement, elle se sent belle. Ça la rend belle aussi, c'est une manière de s'exprimer aussi. Et donc le vêtement, bien sûr, a sa place dans la vie quotidienne, bien entendu, c'est une évidence. Mais de temps à autre, il y a des vêtements qui sont une œuvre artistique. Donc à divers titres, je pense que dans la vie quotidienne, les vêtements, c'est un petit peu comme de la vitamine C. Cela vous donne du peps, cela apporte de la fantaisie dans la vie monotone du quotidien.
Jean-Michel Autoniel.
Très tôt, j'ai pensé, enfin, j'ai essayé en tous les cas de formuler une approche poétique du monde. C'est-à-dire que la poésie pouvait nous permettre de sublimer l'état du monde. Ça, c'est une chose à laquelle je crois. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça.
Mélissa Lavaux.
La première leçon, c'est vraiment ma mère qui m'enseigne. En fait, ces gens-là étaient racistes avec toi. Et c'est une leçon la plus dure que j'ai eue de ma vie.
Parce que vous ne l'aviez pas compris.
J'avais pas compris, c'était à l'église. C'est très personnel. Mais on était à l'église et c'est le moment de donner la paix. Et on est nouvellement arrivé à Ottawa et je donne pour donner ma main, j'avais 5-6 ans et les gens derrière nous refusaient de tenir la main et ma mère les a regardés mais genre d'un air comme si c'était vraiment Ils n'étaient rien, ces gens. Et puis il a dit, ces gens ne sont rien. C'est le racisme, ça ne veut pas dire que tu n'es rien, ça veut dire que ces gens sont rien. Ça réfléchit sur eux. Et dès lors, elle m'a toujours demandé de me poser des questions. Genre, quand les gens te critiquent, c'est pas sur toi, c'est parce qu'il y a un système en place pour te mettre des bâtons dans les roues.
Elisabeth de Fontenay.
J'étais très, très aidée dans ma pensée par Jacques Derrida et par la notion de déconstruction du propre de l'homme. C'est-à-dire essayer de définir une singularité humaine à laquelle je tiens par-dessus tout. Parce que je ne considère pas que l'homme soit un animal humain. Pas du tout. Je trouve qu'on peut défendre les animaux et aller très loin dans la défense des animaux sans considérer que l'homme est exactement la même chose qu'un animal.
Nous sortîmes du village. Alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. De noires pinèdes séparées par des vallons allaient mourir comme des vagues au pied de trois sommets rocheux.
Kenzo ?
En fait, la fleur, c'est le rêve. Vraiment, c'est de la magnificence. L'amour. La beauté. Il y a toutes sortes de choses qui sont contenues dans la fleur. La fleur, finalement, c'est quelque chose d'incroyable. Ma fleur préférée, c'est quand même la pivoine. La pivoine. Même du point de vue du stylisme, la couleur aussi est intéressante. Mais j'aime aussi beaucoup d'autres fleurs, par exemple la fleur du cerisier et des fleurs sauvages aussi. Par exemple les coquelicots. J'aime beaucoup de fleurs.
J'aime la pivoine.
Jean-Michel Autoniel.
Parce que c'est la fleur de la honte. Souvent, on me demande quel est votre hobby. Alors, j'ai pas tellement de place pour le hobby dans ma vie, mais les fleurs, par exemple, ça pourrait l'être. C'est-à-dire que c'est une passion incontrôlée depuis que je suis enfant, où j'essayais de comprendre quelle était la symbolique des fleurs dans la peinture. Ces choses-là, ça m'a toujours intrigué et je me suis dit, là, il y a des clés que je veux percer.
Mélissa Lavaux.
La tristesse d'appropriation culturelle, c'est le fait qu'il y a un oubli et il y a un effacement de l'histoire originelle. Mais moi, j'ai constamment cette nécessité de devoir. C'est genre une sorte de trace, un fil conducteur dans mon travail, dans le niveau du thème, c'est restituer la mémoire et de rester sur de mémoire collective, s'assurer que la mémoire collective, elle respecte.
Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'exigence. Mais en même temps, je pense pas qu'il y ait une nécessité aux yeux du monde. Les artistes ne sont pas nécessaires, ils sont là en plus. Et c'est un plus... je pense important qu'il faut arriver à trouver une place pour ce plus-là, mais voilà, il y a plein de sociétés qui marchent sans artistes, malheureusement.
Kenzo.
En fait, la mode, je crois, depuis une époque vraiment très précoce, a beaucoup évolué. Il y a vraiment eu des très grands changements. Au cours des deux dernières décennies, il y a vraiment des changements radicaux, je ne peux même plus suivre. Mais en fait, la mode, ce qui est différent, c'est que vraiment, maintenant, la mode donc, a sa place dans la vie quotidienne. Avant, c'était une toute petite partie de la vie. Désormais, quel que soit le magazine que l'on regarde, on voit que la mode, donc à sa place dans la vie quotidienne, c'est un progrès. Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Good night, everybody. I've got to go. Gotta leave it all but to face the truth.
Sometimes I feel
like a motherless child, long, long.